micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org
et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour et bienvenue sur l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On est là comme tous les samedis de 13h à 14h sur Radio Campus 90.8 pour parler des luttes contre le racisme, les frontières et les injustices sociales. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale en cette veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On vous propose un best-of de nos émissions précédentes, en non-mixité ou non, pendant lesquelles nous avons parlé des luttes des femmes. Un petit aperçu donc, non exhaustif, de toutes les luttes qui sont menées et autant de combats. À continuer dès demain en manifestant, dès 14h, au départ de l'hôpital Couple-Enfant. On se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine, donc le samedi 14 mars, pour un retour sur cette manif de demain. Et on commence pour aujourd'hui par un retour justement sur les rassemblements qui avaient eu lieu en mars 2018, donc il y a 2 ans, suite à la venue de Bertrand Cantat pour un concert à Grenoble. Une impunité toujours d'actualité en écho à celle donc de Roman Polanski.
Et c'est moi qu'on vient plaindre, et y a pas de limite à mon mépris. Qui veut de moi et des miettes de mon ego? Qui veut entrer dans la toile de mon emprise? Vous savez que je suis un homme violent, un homme violent. Un homme violent.
Je suis
un homme violent.
J'étais en train de chanter Bertrand Casse-toi, je crois, ou une autre chanson. Et là, franchement, j'ai rien compris. Je me suis tournée. J'ai vu qu'il arrivait de derrière la salle et il traversait la place avec un pas ultra assuré. Je sais pas ce qu'il avait, tu vois. Et en fait, il est venu vers nous. Et moi, comme j'étais devant comme une con à ce moment-là, bah, il m'a tendu la main pour que je lui serre la main. Et du coup, j'ai retiré ma main en mode, bah, désolé, mec, mais je peux pas, quoi. Enfin, c'est déplacé. Et du coup, il a attrapé ma tête pour me faire un bisou sur le front. Et, moi, je l'interprète comme un témoignage de sa, pour moi, c'est un problème de santé mentale.
Pourquoi est bête face à la princesse, se dit, suis-je bête? Entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Oui. Quand c'est non, quand c'est non, fais gaffe, range ton bâton, t'habite et dégage. Quand c'est non, quand c'est non, mon vieux, remballe ton pardon et passe aux aveux, aveux.
Moi, plutôt, mon analyse, c'est que c'était de la provoque et qu'il avait vraiment envie de passer pour une victime et que là, il savait que ça allait forcément déclencher des réactions et que du coup ben lui ce qu'il avait envie c'était de montrer comment les gens qui sont contre lui c'est des hystériques et tout et puis que moi j'ai l'impression que c'était quand même pas mal calculé et qu'il est assez malin et qu'il est venu faire de la provoque.
Je pense que la provoque, enfin peut-être pour les gens qui sont vraiment dans ce narratif-là, qui sont pas du tout éduqués sur les violences faites aux femmes et tout, ça va marcher. Mais honnêtement, pour les autres, d'un point de vue extérieur, ça fait vraiment acte de psycho, quoi. Enfin, genre, ça fait vraiment psychopathe de faire un truc pareil.
Moi, je suis vraiment choquée parce que le gars, il est accusé d'avoir fait un féminicide. Il a poussé son ex-compagne au suicide. Les femmes de son entourage commencent à porter plainte pour violences faites aux femmes. Et le gars, il vient faire un harcèlement de rue, enfin une agression sexiste, en fait.
C'est un petit peu la continuité de Marie Trintignant et Christina, dont j'ai oublié le nom de famille. Voilà, donc en fait c'est la continuité de tout ça. Genre il se permet de venir parce qu'il se sent intouchable. Il est intouchable. Enfin, je veux dire, il a tué quelqu'un, il a pas été puni. Enfin, il a été puni avec de beaux guillemets. Il a poussé au suicide quelqu'un, il a pas été puni, il a des plaintes, il est, enfin limite ça le survole. Bah ouais, il peut se permettre de venir, il peut se permettre limite de nous cracher dessus s'il veut. De toute façon, c'est nous les harpies féminines, féminazies qui vont. Enfin, je sais pas quoi.
Et puis toute hystérique qu'on soit, moi personnellement, même très énervée, j'ai jamais tué quelqu'un. Et je voudrais aussi finir en disant que je pense à Marie Trintignant et à Christina Radi, je les connaissais pas personnellement, mais je suis contente qu'on ait été là aujourd'hui pour porter leur mémoire.
Le personnage de Bertrand Cantat ou toi, j'en ai un peu rien à foutre, c'est juste que c'est ce qui m'intéresse, c'est de visibiliser les violences faites aux femmes et que lui c'est un exemple qui est surmédiatisé, que du coup c'est en ça que ça m'intéresse, c'est pas le personnage en soi qui est tout pourri. Et...
On n'est pas pour la prison et tout ce que ça produit ou pour le système judiciaire et d'empêcher les personnes d'avoir une vie après la prison. Le truc, c'est plutôt de dire, ben, en fait, à un moment, il peut pas continuer à se produire sur scène et être une personnalité publique. Et ça empêche en plus des personnes derrière de porter plainte quand elles ont subi des violences. Donc c'est ça qu'en fait, c'est dénoncer aussi ce système judiciaire et médiatique à deux poids, deux mesures, quoi, à deux vitesses. Parce que d'autres personnes n'auraient pas eu un traitement similaire. Quoi.
N'est plus si charmant, il croit qu'il peut jouir en propriétaire de sa femme comme si labourait sa terre. Non, le prince n'épouse pas la bergère, il embauche plutôt une bonne à tout faire. Elle a l'air si tendre et si innocente, si elle va se plaindre et dira qu'elle ment.
Voilà, donc on vient d'écouter un petit reportage réalisé lors du premier rassemblement qui a eu lieu le 13 mars devant le concert de Bertrand Cantat à Grenoble, à la Belle Électrique. Il y en a eu un aussi le lendemain. Et justement, suite à ces deux rassemblements, du coup, qui ont fait beaucoup parler d'eux, parce que, comme vous avez entendu, la descente de Bertrand Cantat pour soi-disant discuter avec les manifestantes a été beaucoup repris dans les médias. Du coup, il y a eu beaucoup de discours là-dessus qui donnaient différents éléments. Et nous, là, ce qu'on vous propose, c'est une lecture d'un texte qui a été écrit par le collectif qui avait organisé ces rassemblements. Le mois dernier, on vous avait lu déjà leur appel au rassemblement, donc contre la tenue du concert de Bertrand Cantat et contre la banalisation des violences faites aux femmes. Et du coup, on va vous lire celui qui a été écrit un peu pour revenir sur ce qui s'était passé lors de ces deux rassemblements et ouvrir un peu des perspectives. Cette fois, ça a été signé « Les sorcières en colère de Grenoble ». Petite référence au message que Bertrand Cantat avait mis sur Facebook disant qu'à Grenoble, c'était comme le Moyen-Âge. Voilà, et ben on va prendre ce qu'il y a de bon dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire les sorcières. Je trouve ça assez rigolo. Alors, ce texte, justement, il s'appelle
« Patriarche Cantat versus sorcière grenobloise ».
Et c'est parti. Retour sur deux belles soirées électriques.
Les 13 et 14 mars dernier, nous avons appelé à des rassemblements devant les concerts de Bertrand Cantat à la Belle Électrique à Grenoble pour dénoncer sa présence indécente sur scène et la banalisation des violences faites aux femmes. Le premier soir, nous étions une bonne centaine de personnes de tous horizons réunies sur l'esplanade devant la salle pendant plus de 3 heures. Beaucoup étaient venus avec des pancartes au slogan explicite et toutes avec détermination. Depuis 17h30, nous buvions du thé et mangeions des gâteaux confectionnés pour l'occasion, distribuions notre tract de 4 pages au public qui arrivait au compte-gouttes, commencions à scander des slogans au rythme de la batucada. À 18h30, Bertrand Cantat est sorti de la salle et s'est dirigé vers nous, vite rejoint par les vigiles de la salle. Que raconter de ce moment? La façon dont il a attrapé la tête d'une manifestante pour l'embrasser? Comment il nous a toisés avec mépris, sans dire un mot, refusant de prendre le tract qu'on lui tendait? La bousculade qui s'en est ensuivie? Il nous semble inutile de revenir plus en détail là-dessus. Pour nous, il est plus important d'expliquer comment son acte était clairement calculé. De la provocation, une démonstration de force, une façon de montrer qu'il avait le droit d'être partout, tout le temps, et même d'embrasser contre leur consentement des femmes qu'il dégoûte. Pour nous, il a délibérément cherché la confrontation, et non le dialogue comme il le prétend. Créant une occasion de renverser les rôles encore une fois, et de se montrer en victime. Peut-être a-t-il d'ailleurs été déçu de notre réaction, finalement pas si violente que ça, contrairement à ce qu'il déclare sur les réseaux sociaux dans un message qu'il balance quelques minutes après son action. On peut d'ailleurs se demander si la véritable motivation de sa sortie n'était pas de créer l'occasion d'envoyer un tel message. Des insultes ? Oui, il s'est fait traiter d'assassin, ce qui semble plutôt adéquat à sa personne. Peut-être peut-on se lancer dans un débat juridique où on pourrait arguer qu'il n'a pas tué avec préméditation et ne serait donc qu'un meurtrier ? Ça ne change pas grand-chose. Une pluie de coups ? Oui, quelqu'un l'a tapé une fois sur la tête avec une pancarte en carton. Comme a commenté un internaute sur la page Facebook de Bertrand Cantat, si Marie Trintignant avait reçu une pluie de coups comme ça, elle ne serait pas morte. C'est vrai que Bertrand Cantat est très bien placé pour donner des leçons sur ce qu'est la violence et son usage. On l'en remercie, mais non merci. Et nous serions sourds et aveuglés par la haine ? Sourds, sourdes et aveugles à quoi ? Il ne nous a rien dit et il était difficile de ne pas voir son sourire narquois. Et non, aucun sentiment aussi envahissant que la haine n'existe en nous envers Cantat. Juste de la colère contre lui et les violences faites aux femmes en général. L'énergie donnée par la solidarité dans son combat légitime, dans un combat légitime. Le retour au Moyen-Âge, eh bien nous sommes fiers d'être des sorcières. Comme elle, nous voulons être des femmes libres et rejetons le cadre patriarcal que l'on tente de nous imposer. Bertrand Cantat avait annoncé la veille l'annulation de ses concerts de l'été. Il devait sentir le besoin de reprendre les choses en main, de tourner les événements en sa faveur. Il a voulu faire le coq, mais nous y voyons surtout le champ du cygne d'une carrière qu'il sait être sur la fin. Avons-nous bien fait de répondre à la provocation et ainsi tomber dans ce qui ressemble beaucoup à un piège tendu par Cantat ? Nous pensons que nous ne pouvions que réagir et c'est aussi une partie intégrante de notre message. Face aux violences faites aux femmes, on ne laissera plus rien passer. Nous souhaitions revenir sur cet épisode car il a fait le buzz. Et comme souvent, de nombreux médias ont utilisé les propos du chanteur comme une description objective des faits qu'ils pouvaient relayer sans aucune remise en question. Mais ce que nous retenons de ce rassemblement, c'est la belle énergie, la détermination, les échanges avec les spectateurs et spectatrices, parfois tranquilles, parfois plus mouvementés, surtout quand un membre du public est allé frapper un camarade. Toujours sans concession, une femme a décidé de ne finalement pas aller au concert par désaveu du chanteur, et les slogans qui faisaient mouche, dont certains créés sur le moment. C'était fort. Nous n'avions appelé qu'à ce premier rassemblement, n'étant pas sûrs d'avoir l'énergie, d'emporter un deuxième, et assez incertaine de comment les choses allaient se passer. Pendant la soirée, de nombreuses personnes enthousiastes ont dit qu'elles souhaitaient revenir le lendemain. Alors nous avons lancé un deuxième appel pour le deuxième concert. Rebelote le mercredi soir donc. Un rassemblement à partir de 19h avec un peu moins de monde, mais toujours de l'énergie et énormément de médias.
Encore quelques arguments à démonter.
Depuis que nous et d'autres avons commencé à interpeller sur l'indécence de la présence de Bertrand Cantat sur scène, nous avons pu voir les opinions changer, les discours évoluer, dépasser les premiers arguments qui nous étaient opposés, répétés en boucle par certains et certaines et relayés par les médias. Nous revenions sur plusieurs d'entre eux dans notre texte d'appel au rassemblement et nous souhaitons ici parler de deux autres, utilisés par Cantat lui-même, certains et certaines de ses fans et des journalistes.
Séparer l'artiste de l'homme.
Comment extrait-on l'artiste de l'homme ? Pour nous, c'est assez mystérieux. Cette ablation requiert-elle une intervention chirurgicale ? Et après, comment ça se passe ? L'identité artiste a-t-elle son propre compte en banque ? Du coup, aller voir Bertrand Cantat, l'artiste, n'aurait aucune conséquence sur les finances de Bertrand Cantat, l'homme ? Sur le pouvoir qu'il tire de sa notoriété ? Les mains de l'artiste qui signe les autographes, qui joue de la guitare, qui tienne le micro, ne sont-elles pas les mêmes que celles qui ont frappé Marie Trintignant ? Et combien d'autres ? Ça demande quand même une belle gymnastique mentale pour pouvoir envisager les choses comme ça. Et clairement, la souplesse nous manque. Cela ressemble plutôt à des excuses pour pouvoir continuer à s'accrocher à une image d'Épinal qui cache un culte de la personnalité mal digérée et une nostalgie pour des fantasmes adolescents qui ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. Et oui, cet artiste est un salaud. Et quand l'artiste monte sur scène et qu'il est applaudi, c'est bien un salaud qui est acclamé et cautionné.
Liberté d'expression et censure.
Il nous semble important de revenir sur le sens exact de ces termes et ainsi de montrer comment leur utilisation est galvaudée. La liberté d'expression est définie dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est clairement dit, cette liberté concerne le droit d'exprimer ses opinions. Ce qui est problématique avec Cantat, ce ne sont pas ses opinions, ni le fait qu'il les exprime. Nous ne cherchons pas à faire taire une voix dans un débat d'idées. La censure est également un concept lié à l'expression d'opinion. C'est un procédé qui vient d'en haut, de personnes ou d'organismes de pouvoir, souvent pour effacer les opinions qui mettent en danger l'ordre établi. Un avocat célèbre va même jusqu'à parler de McCarthyisme au sujet de Cantat. Pendant cette époque sombre de l'histoire états-unienne, c'était bien l'État qui convoquait des personnes dont le seul crime était d'être communiste ou simplement soupçonné de l'être, puis les renvoyait de leur emploi, les mettait sur liste noire, rendant leur vie professionnelle, voire leur vie tout court, impossible, les poussant à l'exil, voire les emprisonner. L'État qui utilise sa force de répression contre la liberté d'expression et d'opinion, de la persécution politique, oui c'était bien ça le McCarthyisme. Ça ne ressemble en rien à ce qui arrive à Bertrand Cantat en ce moment. Dans son cas, nos voix qui s'élèvent sont des voix de la société civile, les voix d'un contre-pouvoir. Des voix qui expriment un ras-le-bol et portent un combat basé sur l'éthique, la dignité et le désir de mettre fin aux injustices sociales, dont les violences faites aux femmes sont parties. Ce sont les voix de femmes qui disent non à la banalisation de ces violences que nombre d'entre nous et de nos proches subissent ou ont subies, et de leurs alliés. Des voix que notre société, sourde à la souffrance, tout occupée à flatter son image, peine à entendre et s'évertue à faire taire. Dans les conversations, dans les médias, dans les commissariats, les tribunaux, les ministères, les conférences et les colloques, dans toutes les couches sociales, au boulot, à la maison, au café, dans la rue, chute. Des voix qui souvent n'osent pas, qui chuchotent, qui insinuent à demi-mot. Des mots qui restent dans la gorge, coincés par la honte, la peur, l'incompréhension et l'indifférence ambiante. Mais des voix fortes dans la sororité, intarissables et qui n'en finissent pas de se libérer. Qui s'étonne qu'on crie, qu'on hurle ?
Et maintenant ?
La nouvelle tentative de retour au devant de la scène de Bertrand Cantat est un échec. Nous n'avons nul besoin que cette tournée reste. Nous avons nul doute que cette tournée restera sa dernière. Il est en train de tomber de son piédestal. Accélérons sa chute. Nous avons eu énormément de retours de personnes partout en France et même ailleurs qui nous disent que ces rassemblements les ont inspirés et qu'elles veulent s'organiser pour faire de même dans leur ville. Comme nous le chantions à Cantat devant sa salle de concert, partout où tira, des féministes seront là. Et elles diront non au patriarcat. Ça a l'air bien parti. Nous espérons que par ce mouvement de contestation, le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes et le féminisme en général vont continuer à se renforcer, car après Bertrand Cantat, la lutte ne sera pas terminée. Tant que ce système patriarcal sera là et permettra, cautionnera et même encouragera les violences contre les femmes, les lesbiennes et les trans, nous serons là, toujours plus nombreuses et plus déterminées. Pour que la peur change de camp. Notre colère ne tue pas, elle libère.
Pour poursuivre, on vous propose deux extraits d'émissions. La première avec Martine et Antonietta, deux militantes féministes qui reviennent pendant l'émission en non-mixité qui a été enregistrée en 2017, en mars 2017, sur l'histoire des luttes féministes à Grenoble. Puis on poursuivra sans transition sur un retour sur la manif du 8 mars de 2017.
Et donc voilà, on revient sur nos histoires de lutte féministe avec pour commencer Martine, il y a aussi Antonietta qui est là. Alors bah Martine, bonjour.
Bonjour.
Merci, merci beaucoup d'être là.
Bon, moi je voudrais témoigner du passé et que sur Grenoble, il y a depuis longtemps des groupes féministes. Donc dans les années 80, et je ne sais pas exactement la date, il y avait 25 groupes féministes, tous différents. Wow. Et on avait fait le siège de la mairie de Grenoble et on avait une maison des femmes.
Tu disais qu'il y avait 20 groupes à peu près féministes sur Grenoble.
Oui, je ne sais plus exactement. Mais
et comment c'était partagé, du coup, ces histoires-là, ces vécus-là
Parce que la maison des femmes, c'était pas un groupe, c'était à plusieurs groupes. Donc on en a reparlé, la maison des femmes. Voilà.
Et ouais, à une époque où, il faut le rappeler, même si ça semble évident, il n'y avait pas Internet aussi. Et du coup, pour rester lié, bon, on avait le téléphone fixe, ou sinon c'était vraiment crucial d'avoir un lieu où toutes pouvaient se retrouver, partager des idées, de la documentation, des tracts, des journaux.
Je ne veux pas vous raconter comment on a eu le lieu, parce que je ne m'en souviens pas assez bien. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup
d'aller chercher.
J'ai interrogé les filles, je me souviens de leur nom, et donc j'ai discuté avec Antonietta que ça serait vachement important d'avoir une histoire des différents féminismes à Grenoble depuis les années 70 ou peut-être avant, je ne sais pas.
Parce qu'il y a eu une autre maison des femmes, il y a eu plus récemment la Maison des Femmes à Saint-Martin-d'Hères, dont tu faisais partie aussi. Et je crois que dans les années 80, il y a eu une deuxième Maison des Femmes à un autre endroit. Je ne sais pas, toi, tu as entendu parler de ça une autre que pas. Quartier Saint-Laurent.
Mais si tu veux, ce qui me paraît différent avec la Maison des Femmes à Saint-Laurent, c'est que ça appartient pas à... On était plusieurs groupes. Je ne sais pas comment.
Plusieurs groupes, oui, dans le même espace. Et ce que tu appelles groupe, c'était quoi qui définissait la différence entre les groupes ? Plusieurs groupes. Pourquoi ça n'en était pas un seul grand ? c'est une question bête, mais...
Nous, par exemple, on s'appelait groupe des 12, parce qu'on dit 12.
Les groupes des 12, d'accord. C'était des affinités qui constituaient les groupes, c'est ça
on a fait un petit livre... Un petit livret, mais il y avait des groupes qui étaient sur différents. Il y avait des groupes qui étaient sur la création de femmes des groupes qui étaient plus contre viol, il y avait des groupes sur différentes thématiques.
Et du coup, il y avait des thématiques différentes, mais est-ce qu'il y avait aussi des différences au niveau politique d'analyse? Est-ce qu'il y avait des clashs ou est-ce que c'était assez homogène finalement?
Moi, j'étais à l'LCR.
Tu chuchotes quand tu dis ça.
Non, mais ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit pas que c'est l'LCR. Mais bon, nous, par exemple, on avait un groupe où il y avait 10 femmes dans mon groupe. Mais j'ai assez parlé.
Antonietta, c'est ce qu'elle disait, en fait, l'histoire du féminisme à Grenoble, il est quand même très divers. Enfin, il n'y a pas un collectif qui s'est formé avec un... Voilà, c'était surtout des groupes qui étaient... il y avait des marxistes, hein, il y avait des maoïstes, il y avait des... ça se définissait aussi en fonction de leur manière d'approcher leur militantisme. Et ça remonte bien avant les années 70, hein, voilà, on ne va pas renier sur toute l'histoire, mais... du coup, c'est aussi ça qui a permis de mener beaucoup de luttes, voilà, et beaucoup de mouvements ont continué aujourd'hui. Et les féministes de cette époque, on les retrouve aussi dans d'autres organisations et d'autres hein, qui ont fait partie du panorama grenoblois et qui ont en tout cas gardé cette flamme, voilà, de lutte, parce qu'on est loin encore d'avoir conquis un certain nombre de choses.
Alors, le 8 mars, c'était la manifestation nationale, c'était une date nationale, de manifestation pour le droit des femmes. Et était présente à cette manifestation solidaire, la CGT, Sud PTT, le NPA, le PCF, Femmes Égalité, Oser le Féminisme, le Planning Familial, SOS Homophobie, des déviantes et des déviants, et des personnes concernées et ou solidaires de la cause. Et donc la manif fait partie de l'hôpital Couple-Enfant, on est passé ensuite par la préfecture, et tout ça en direction de Félix Poula. La manif a commencé à 15h40, c'est l'heure à laquelle les femmes commencent à bosser gratuitement, chaque jour. Voilà, et bien tout de suite on écoute le montage de la manifestation. À tout de suite.
Mobilisation des ouvrières de l'habillement de New York qui, dans les années 1850, travaillaient 16 heures par jour dans des pièces étroites et souvent sans fenêtres. Leur salaire n'excédait pas 4 dollars par semaine. Le 8 mars 1857, elles descendent dans la rue pour obtenir 10 heures de travail par jour, des pièces saines et claires pour travailler, des salaires égaux à ceux des travailleurs, des tailleurs. Dans le meeting qu'elles tiennent le soir de cette journée, les couturières américaines jurent de se retrouver chaque année à la même date.
Olé, olé, oh là là, toutes unies contre le patriarcat. Olé, olé, oh là là, et le capitalisme en le combat.
Ces violences ne sont pas des actes individuels, isolés. Ces violences touchent tous les milieux sociaux, sont intergénérationnelles et ont lieu partout dans le monde. Elles plongent leurs racines dans deux systèmes d'aliénation qui se nourrissent mutuellement sans jamais se confondre et que nous combattons, le capitalisme et le patriarcat.
Allez, venez, mesdames, descendre dans la rue. On attaque nos droits, on ne se taira plus, crier plus fort, mesdames, reprenez notre chant, c'est pour l'égalité, et contre le temps parfait, on vaut mieux que ça, mesdames, ils veulent nous ignorer, on va se mobiliser jusqu'à l'égalité.
Le seul moyen de garantir l'application des lois sur l'égalité professionnelle, c'est de sanctionner les entreprises ou administrations qui ne les appliquent pas. 80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 20% de harcèlement sexuel au travail. 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur le lieu de travail.
Alors le retour à la rémunération au mérite, les femmes étant jugées moins disponibles et moins impliquées. La remise en question des instances représentatives des personnels, on sait que ça fragilisera davantage les femmes en situation de harcèlement, de violence. Et le recours accru aux contractuels va toucher forcément massivement les femmes. Aujourd'hui, 66% des non-titulaires sont des femmes. Et bon, un mot sur la ville de Grenoble. Selon son bilan social, les temps non couplés subis ceux-ci sont occupés à plus de 86% par des femmes et plus de 70% pardon, des agents vacataires non permanents sont des femmes.
Résiste, parce que tes droits existent, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, insiste et persiste.
De la région, des départements, des municipalités qui ont conduit notamment à la fermeture du CIDFF à Grenoble, donc qui a fermé, on avait déjà manifesté l'année dernière devant. Et vous avez peut-être suivi aussi que l'AVFT, qui est une des rares associations qui s'occupe des femmes victimes de violences au travail, avait fermé sa permanence, a fermé pour l'instant sa permanence, faute de moyens pour répondre à toutes les demandes et à toutes les sollicitations. Donc pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a réellement besoin de moyens. Et ces moyens, aujourd'hui, c'est l'État qui doit les donner.
De son corps, c'est la liberté d'avoir ou pas des enfants, d'utiliser des contraceptions, d'avoir recours à l'IVG. Partout en Europe, il y a des contre-offensives, il y a des groupes qui sont organisés, des groupes qui ont des moyens, des groupes qui sont structurés, qui veulent retirer partout le droit, ce droit-là des femmes de disposer de leur corps. Le droit à l'IVG, il va falloir qu'on continue à se battre, voire se battre pour le droit à la contraception, parce que derrière, c'est ça qui sera attaqué. Donc le combat, il est aujourd'hui, il est demain, il est pour nous et pour les autres.
Tout est à nous.
Tout est à nous.
Rien n'est à eux.
Rien n'est à eux.
Nos vies nous appartiennent. Contraception gratuite et libre avortement. Ou alors ça va péter.
Ça va péter.
Ce qui est visible aussi, c'est que 50 ans plus tard, les femmes se battent toujours pour s'habiller telles qu'elles le veulent. Au croisement du sexisme et de l'islamophobie, les discussions autour du voile ou du burkini n'ont plus leur place dans le débat public. Trop couverte ou pas assez, c'est aux femmes de décider.
Pour améliorer concrètement la situation des femmes lesbiennes, bi, trans, la situation de toutes les femmes.
Contre le contrôle patriarcal imposé à travers le pouvoir médical sur nos corps et nos vies, contre la stigmatisation des gays, bi et lesbiennes et leurs enfants qui se portent aussi bien que les autres, merci pour elle. Signé des déviants et des déviantes.
On vient d'écouter donc un retour sur la manif du 8 mars 2017. C'est une émission best-of sur les luttes pour les droits des femmes. Sur cette deuxième partie d'émission, on va plutôt relayer les luttes des femmes contre l'islamophobie, qui est aussi donc une lutte pour le droit à disposer librement de son corps et de se vêtir comme on le souhaite. On commence par un montage qu'on nous a envoyé et qu'on diffuse pour la première fois autour de la lutte des femmes pour l'accès pour toutes à la piscine.
Alors... Donc, c'est parti. Bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va.
Vous allez bien?
Oui,
c'est bien. C'est bon, vous êtes tous prêts? Ça fait bien l'action?
Oui. J'espère que ça va aller.
On peut comment agir? Petit groupe par petit groupe. Et on va voir ce qui se passe.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à Montreuil avec la Compagnie Nage, une compagnie de théâtre de l'opprimé, pour un week-end de travail autour du racisme structurel. À cette occasion, on reçoit deux militantes du collectif des femmes musulmanes voilées et libres de Grenoble. Elles nous ont raconté l'histoire de leur lutte pour pouvoir aller à la piscine en maillot de bain couvrant. Et on a monté des scènes de théâtre. On écoute une des membres du collectif.
What the hair look like, bet the hair look nice. Don't that make you sweat, don't that feel too tight. Yo, what your hair look like, bet your hair look nice. How long your hair is, you need.
D'abord, je suis une femme avant tout, je suis une mère, voilà, au foyer.
Et en fait, moi personnellement, j'estime que je suis en lutte et je milite au quotidien. Et en fait, je lutte contre toute forme d'injustice et de discrimination. Dans le collectif, le comité des femmes voilées libres, on est en fait associé, on est avec l'Alliance citoyenne. Bah, en fait, on se bat pour les droits civiques des femmes musulmanes et surtout des femmes voilées. Nous, on défend le principe de la liberté, mais pour toutes les femmes, quoi. Voilées, pas voilées, voilà. Et bah, l'Alliance, avec l'Alliance citoyenne, on s'est engagé pour mener une action sur Grenoble pour demander le changement de règlement des piscines où ils nous imposent, d'ailleurs à nous et à toutes les femmes, ils nous imposent un maillot de bain traditionnel. You only see Oriental, you steady working that dental, you popping off at the lip and run your mouth like a treadmill, not your exotic vacation, I'm bored with your fascination. C'est bon, on vous attend au vestiaire.
C'est bon, ils ont pu pénétrer.
On va occuper le maître nageur, hein, comme ça, pour rentrer. Je vais être là.
Bonjour. Les bassins, l'eau est chaude. Merci, hein.
On trouve que c'est aberrant, on est en 2019 et les femmes, elles n'ont pas cette liberté, voilà, de mettre le maillot de bain qui leur convient. Dans le monde, on a les pays qui légifèrent des droits contre des lois pour les tenues vestimentaires des femmes. On a l'Arabie Saoudite, on a l'Iran, on a le Pakistan et en fait, il y a la France qui arrive derrière. L'intérieur de Stade Nautique et à l'extérieur, il y avait deux camions de CRS qui attendaient dehors pour faire pression ou pour montrer, je ne sais pas, à la population que la commune de Grenoble a réagi pour mettre la pression aussi. Et c'est vrai que leur présence a choqué certains membres de femmes avec nous parce que pour elles, on n'a rien fait de mal, on n'a pas commis un crime. C'était juste disproportionné. La présence en fait de la police, on était loin de la violence, on n'était pas des femmes violentes. Les femmes, elles étaient secouées, elles étaient mais vraiment, on était inondées par des messages de haine, de moqueries, des insultes, des menaces. Et la fascosphère a profité pour cracher leur haine sur tout ce groupe de femmes, quoi. C'était vraiment violent.
Alors moi, Éric Zemmour, avant de te laisser, ça fait 30 ans que je parle d'invasion. Et là, maintenant, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Des femmes investissent une piscine en burkini, donc complètement couverte. Leur seule idée, c'est l'invasion de la France. Il faut choisir entre la France et l'islam. Ces femmes mènent vraiment une action extrêmement dangereuse. Pour elles, c'est un djihad. Ici France 3 Isère. Alors, je suis devant la piscine où a eu lieu cette intrusion absolument extraordinaire il y a 2 jours. Des femmes ont décidé d'investir la piscine et de se baigner en burkini, ce qu'elles appellent pudiquement, si je puis dire, le voyou couvrant. L'opinion s'est enflammée à ce sujet et on attend un communiqué de la mairie.
Ah non, mais sur place, en fait, il y a un truc qui est vraiment fou entre qu'est-ce qu'ils ont véhiculé les médias et nous, qu'est-ce qu'on a vécu sur place. Sur place, on a vu vraiment des femmes, moi j'étais frappée par des femmes qui étaient en bikini, qui nous défendaient, ils sont venus, c'était pas des alliés, c'était des gens qui étaient en colère, mais elles comprenaient pas pourquoi on s'en prend à ces femmes-là, pourquoi on les a interdit de venir se baigner avec leurs gosses. Il y a des femmes qui avaient donné rendez-vous avec leurs gamins sur place, c'est la première fois qu'ils ont pu se baigner avec leurs gosses sur place, et c'était très bien passé, on a eu des applaudissements, les gens se sont levés, ils nous ont applaudis, ils nous ont encouragés. Il y avait, moi j'étais aussi marquée par une personne qui n'était pas au courant. Quand je lui ai expliqué, monsieur, qu'est-ce que vous pensez le fait que je nage aujourd'hui à côté de vous avec mon maillot de bain courant, il m'a dit mais pourquoi? Je lui ai expliqué que c'était interdit, il n'a pas compris. Ah ouais? Il était étonné. Et voilà, ça fait des échanges. Il y a la majorité nous ont exprimé leur incompréhension. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit, quoi? On ne comprend pas. Qu'on vous foute la paix, venez vous nager avec vos bikinis ou burkinis, on s'en fiche. Moi, on m'a dit en fait, vous nous bousculez dans nos habitudes et vous bafouez mes droits, moi, pour vos habitudes. En fait, ils bafouent mes droits pour leurs habitudes, leur confort. En fait, nous, on parle des droits et des lois, et de l'autre côté, c'est des élus qui nous parlent des sentiments et des habitudes.
Vous connaissez bon, quand même la position du parti de gauche. Hein. On ne va pas tolérer dans un service public un signe de soumission de la femme à la
mais quelle patriarcale. Mais c'est pas possible, c'est pas de la soumission. Laisse-moi cette gens pour réfléchir quand même.
Et on est allé voir d'autres personnes et ça nous a fait une bouffée de chaleur humaine. Les alliés, les gens qui nous ont soutenus, comme le planning familial, comme des associations des féministes et d'autres personnes, c'était vraiment une bouffée de chaleur. Me and my hijabi ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some high yoga. Les perspectives, c'est toujours sensibiliser d'ailleurs les premières concernées, c'est les femmes voilées, leur donner la parole, parce que rarement, et c'est la première fois dans la parole, une association qui porte ce sujet, qui donne la parole aux premières concernées, et c'était elle qui était mise en avant. Et on a d'autres sujets, le travail, l'emploi, le logement, on n'arrête pas en fait, on fait ça non-sion, hein, les femmes voilées et tout ce qui est autour. En fait, on a pas mal de pistes. Il y a beaucoup de travail. C'est un chantier, quoi.
Pour finir cette émission micro-ondes best-of sur les luttes pour les droits des femmes, de toutes les femmes, on écoute des extraits de l'émission de mars 2016 où nos invités parlaient d'état d'urgence et d'islamophobie.
Propos recueillis lors de la 9e rencontre départementale des luttes et résistances pour un avenir sans fascisme, organisée par Ralfron 38 le 16 janvier dernier. À la tribune, en deuxième partie, Isman Schuder, vice-présidente de Islam et laïcité et membre du collectif des féministes pour l'égalité. Tous deux rassemblés autour du débat « Musulmans ou assignés, le racisme au quotidien ».
Une des principales caractéristiques de l'islamophobie, c'est que 81,4% des victimes et des cibles de l'islamophobie sont les femmes. Musulmane, pourtant un fou garçon. Alors, quand je dis ça, on me dit souvent « Oh là là, mais arrêtez de vous victimiser. » Parce qu'il y a une autre caractéristique de l'islamophobie en France, c'est que l'islamophobie en France est encore une opinion, mais pas tout à fait un délit. Le combat essentiel de la République dans ce pays, c'est quand même bien de lutter contre le foulard. C'est vrai que pour évacuer les questions sociales, il n'y a pas mieux que de se focaliser sur un marqueur qui opère comme vraiment une diversion stratégique. Le foulard, ce n'est pas mon problème, c'est leur obsession. Comment on s'attelle au vrai problème pour le coup ? C'est-à-dire le chômage, le logement, la ségrégation spatiale, la ségrégation économique. En tant que féministe, permettez-moi aussi de revendiquer le fait de faire de ma priorité le fait que dans ce pays actuellement, une femme meurt tous les jours, tous les deux jours et demi, sous les coups de son conjoint. Et on n'a pas rajouté à côté arabe, noir, musulman. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à compétences égales et à diplômes égaux, eh ben, je suis payée un tiers de moins qu'un homme. Ça, ça m'intéresse plus, en fait, que la question islamique dans ce pays. Ce qui m'intéresse aussi, donc, c'est la question des violences conjugales, c'est la question des viols à Cologne, mais pas simplement, parce qu'on fait, on fait mine de découvrir, en fait, qu'il y a des agressions sexuelles en Europe ou dans le monde entier qui sont le fait d'hommes et pas simplement de réfugiés, comme si les viols avaient débuté depuis l'histoire des migrants et des réfugiés. Ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle aussi.
Isman Choudhor, à propos du CFPE, collectif féministe pour l'égalité, et revenant sur la marche de la dignité d'octobre 2015.
Alors, il est non mixte, c'est pas par sexisme, c'est un choix politique. À la mise sur pied de ce collectif, c'était d'abord un slogan, qui reste le nôtre, même 11 ans après, c'est de refuser le modèle unique d'un chemin d'émancipation des femmes. Et le respect infini pour chaque femme de pouvoir choisir sa voie d'émancipation. Le respect vis-à-vis des femmes qui inscrivent leur trajectoire parmi d'autres à l'aune d'un référentiel religieux ou spirituel. Voilà. Deuxième chose, et c'est un des points de notre charte qui est en 12 points, c'est que le droit de ne pas porter le foulard suppose le droit de pouvoir le porter. Autre chose, troisième aussi, c'est évidemment l'égalité homme-femme. Mais nous avons rajouté quelque chose, c'est l'égalité femme-femme. Parce que dans ce pays actuellement, il y a des femmes qui sont moins égales que d'autres femmes. Surtout mesdames féministes, mesdames en tout cas, celles que j'appelle pseudo-féministes, qui ne respectent pas les voies d'émancipation, décidées, choisies librement, en toute autonomie par chaque femme. C'est de dire non, il n'y a pas des femmes qui seraient assignées à un endroit dit émancipé de manière éternelle et d'autres qui seraient assignées à un endroit diabolisé de manière éternelle. Ça n'existe pas. Parce que dans ce pays, il y a quand même une vaste fumisterie que je dénonce où que j'aille, c'est de dire quand même, on en est arrivé sous justement un gouvernement socialiste, pour ne pas le citer, à lier de manière consubstantielle émancipation des femmes et féministes à laïcité. J'aimerais bien savoir par quel tour de magie, dans ce pays, c'est la laïcité qui a émancipé les femmes. Jamais.
Jamais.
Jamais. Ce sont des femmes qui sont entrées en résistance et ont arraché leurs droits. Et maintenant, dans ce pays, beaucoup d'hommes machistes, sexistes, se découvrent féministes à l'endroit de femmes musulmanes. Voilà. Autre chose qui lie justement et qui articule ce qu'on appelle les oppressions croisées, classe, race, genre, c'est le fait que, par exemple, dans le collectif Maman Toutes Égales, c'est un collectif qui est né pour venir en appui aux mamans qui étaient discriminées et qui étaient exclues des sorties scolaires de leur enfant. J'aimerais bien qu'on m'explique quand une maman, en fait, cherche à s'impliquer dans l'école de son enfant et qu'on lui répond, vous n'avez pas le droit, la laïcité, blablabla, et moi je renvoie au texte des lois, parce que vous savez, quand on est discriminé, on devient pratiquement juriste et avocat, tellement je maîtrise les textes législatifs, pour pouvoir justement les opposer à celles et ceux qui veulent me cibler et me discriminer de manière tout à fait illégale. c'est de dire à ses mamans, non, nous ne voulons pas de vous dans les sorties scolaires. Par contre, pour la fête de l'Aïd, il n'y a pas de problème pour les gâteaux et la cuisine. Ça renvoie à quoi, ça? Quand j'ai débuté, quand on m'a parlé, on s'est adressé à moi, on a beaucoup articulé. C'est de m'avoir indiqué, en fait, escalier de service contre personnel de service. Oui, non, mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'une femme voilée, elle a sa place quand elle fait les ménages. Mon foulard, c'est pas mon problème, c'est leur obsession.
Et il y a une autre personne, Narges, qui fait partie du FUQP, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui nous fait part de son témoignage. On va écouter le montage maintenant. De témoigner, puisque en fait longtemps on a parlé du voile sans les personnes qui décidaient de s'emparer, et du coup moi je trouve que nos témoignages, à toutes nos expériences individuelles, peuvent permettre de faire avancer le débat et puis d'arrêter cette invisibilisation des femmes voilées. Des plus premières expériences violentes que j'ai pu subir, c'est le dévoilement, en fait, à l'âge de 13 ans, devant les collèges, pour pouvoir continuer ma scolarité dans la grande école de la République. Je me suis retrouvée, donc, après la loi de 2004, à devoir ôter mon mandana que j'avais depuis 2 ans, en classe de 6e et de 5e. Donc, ôter mon mandana devant toute la classe, quoi, toute l'école, et ça a été quelque chose d'ultra violent, puisque ben, c'était, mes jeux, c'était quelque chose d'assez personnel. Donc, ça représentait mon intimité, et en fait les garçons de ma classe l'avaient très bien senti. Du coup, quand j'ai dû enlever mon voile, l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est venir toucher mes jeux, et ça, j'ai vraiment senti comme une agression, en fait, et pour moi c'était l'école qui m'agressait, c'était l'école qui refusait de m'accepter avec mon voile dans son sein. Donc en fait j'étais plus quelqu'un d'important, enfin voilà, je devais être modifiée ou alors exclue, quoi. Devoir justifier encore et toujours ce voile sans que vraiment on nous entende, en fait, parce que dès qu'on sortait un argument, dès qu'on expliquait notre démarche, elle était forcément sous le joug d'un parent qui viendrait nous imposer quelque chose, ou alors d'un réseau d'islamistes cachés dans nos quartiers, quoi. Ça fait 14 ans, donc j'ai eu 14 ans d'expérience assez particulière, que je compile dans un livre, Inch'Allah, qui sortira dans l'année. Donc là, les expériences les plus récentes sont celles liées à l'état d'urgence. Et je me suis fait tout récemment interdire d'une salle de sport, puisque je n'étais pas identifiable avec mon voile, et que la caméra de sécurité ne pouvait pas, soi-disant, m'identifier. Ça, à Grenoble, en fait, ici même. Et donc, en fait, c'est des logiques sécuritaires qui vont justifier l'exclusion de femmes dans un lieu public, quoi. Je me suis fait agresser dans la rue, un homme m'a vu, m'est rentré dedans avec son vélo et m'a dit Daesh hors de France, toujours à Grenoble, pareil, j'ai vu dans son regard vraiment la peur, quoi. Aussi la peur de ne pas trouver un emploi demain, la peur de devoir être exclue, la peur de ne pas pouvoir accompagner ses enfants, ses petits frères à l'école. Enfin bon, ça se joue sur tous les pans de notre vie, et c'est quelque chose qui est complètement déplorable. You can try to avoid us, but it's pointless. You can never avoid the voices of the voiceless.
Jouda ?
Oui.
Je voulais juste parler par rapport à ce que disait Nargès, par rapport à la loi sur le voile. Là aussi, c'est une loi d'exception. Et là, je te rejoins, Kenja, parce qu'en fait, on sait très bien que la loi de la loi 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qu'elle veut dire surtout, c'est que c'est une loi qui s'applique aux gens qui travaillent dans l'administration. Et avec la loi 2004, on est passé à une injonction, c'est-à-dire que les usagers, et c'est le seul endroit où on voit ça, les usagers sont obligés d'être laïcs. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de mouvements, il y avait un mouvement féministe qui était contre ça, il y avait plein de mouvements aussi partout qui dénonçaient cette loi. Et c'est une loi qui a été créée en plus, alors qu'il n'y avait pas vraiment de problème dans les écoles. C'était des épiphénomènes. Et on crée une loi d'exception sur des épiphénomènes. Ça en dit long, en fait, sur la volonté de faire de la communauté musulmane en France des boucs émissaires. Et alors, il faut citer aussi la circulaire qui interdit aux mamans voilées, qui donne la possibilité aux écoles d'interdire les mamans voilées lors des sorties scolaires. La tentative aussi avortée de pour les nounous, en fait. Et à chaque fois, ces projets de loi, de machin, on dit jamais c'est contre le voile. Mais en fait, on comprend très très bien de quelle communauté on parle. C'était une circulaire qui imposait à des nounous de faire une déclaration d'appartenance à une religion. Mais on n'a jamais vu ça. Mais tout d'un coup, ça devient possible quand il s'agit de la communauté musulmane. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout est permis quand il s'agit de la communauté musulmane.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission Best-of. On vous rappelle que demain, il y a une manif à ne pas louper à partir de 14h devant l'hôpital, au départ devant l'hôpital couple-enfant. Et on va écouter d'ailleurs l'agenda des luttes des semaines à venir.
Alors, on va commencer cet agenda avec la manifestation du dimanche 8 mars qui va commencer à 14h. Le départ se fera de l'hôpital Couple-Enfant qui se trouve près de l'arrêt de tram Hôpital Nord sur la ligne B. Et en fait, cette manifestation, elle se place dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes. Voilà. Et alors du coup, il y a un appel, c'est cette journée de mobilisation est assortie d'un appel à ce que toutes celles et ceux qui travaillent le dimanche 8 mars dans la santé, le commerce, les services d'aide à la personne, la culture, etc., à faire grève de leur travail salarié. Et puis du coup, il y a aussi un appel à faire grève des tâches domestiques et de la prise en charge des enfants, etc. Tout ça pour montrer que, en fait, sans nous, rien ne tourne, ni l'économie, ni la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, un appel de grève pour toute la journée, plus la manif à 14h, départ de l'hôpital Couple-Enfant. Ensuite, le lundi 9 mars, il y a une autre journée de mobilisation à l'appel des étudiants, étudiantes et personnels du campus en lutte qui organise une manifestation féministe en prolongement de la journée du 8 mars et avec une série de revendications spécifiques à l'université. Entre parenthèses, mesures de lutte contre les violences sexistes et le harcèlement à l'université, mise en œuvre effective du droit au prénom d'usage, etc. Donc ce sera à midi le 9 mars, départ de l'arrêt de tram Bibliothèque Université Droit-Lettres sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Voilà. Ensuite, on vous propose le vendredi 13 mars à 18h30 une projection du documentaire Lady's Turn d'Hélène Harder. Du coup, ça, c'est le film parle du fait qu'au Sénégal, le pays du foot 3 s'organise pour la première fois en 2009 un tournoi de foot féminin sur le terrain de quartier grâce à l'association Lady's Turn. Malgré l'engagement passionné et combatif de Seyni, ancienne capitaine de l'équipe nationale et de celles et ceux qui se battent à ses côtés, le terrain est loin d'être gagné. Que va-t-il se passer ? Voilà, ça c'était le pitch du film. Donc voilà, c'est un documentaire. Et c'est à 18h30, du coup, à la bibliothèque des Auclairs qui se trouve au 49 rue des Auclairs. Ensuite, du coup, on vous propose aussi d'assister à un stage de kung-fu en mixité choisie sans homme cis. voilà, homme cis, c'est-à-dire homme qui se reconnaît comme homme dans le genre assigné à sa naissance. Du coup, le stage de Kung Fu, il se déroulera du vendredi 13 au 15 mars à Grenoble. Et du coup, le début se fera le vendredi 13 à 17h. Et ça finira du coup le 15 mars en fin de journée. C'est à prix libre, mais pour info, le prix par personne, c'est de 30€. Du coup, il y a une invitation à ce que les personnes qui ont plus de moyens donnent plus pour que les personnes qui ont moins de moyens puissent quand même avoir accès à ce genre de stage. Et du coup, voilà, après les manifestations, venez apprendre à vous défendre. Et c'est ouvert à tout le monde, y compris les personnes débutantes. Voilà. En tout cas, pour toutes les informations concernant l'agenda, vous pouvez les retrouver sur plusieurs sites, tels que cric-grenoble.info, ou alors encore le-tami.info, ou encore ici-grenoble.org. Voilà, et vous pouvez trouver tout un tas d'informations.
Et voilà, c'est la fin de cette émission best-of pendant laquelle on est revenu sur les différentes luttes pour les droits des femmes. On se retrouve maintenant la semaine prochaine, donc le samedi 14 mars, dès 13h sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour faire un retour sur la manif qui aura lieu demain avec plein d'interviews, des organisatrices, etc. D'ici là, vous pouvez nous retrouver tout le temps, à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit, sur le site de Radio Campus pour les podcasts et sur le site de le-tami.info, toujours pour avoir tous nos podcasts. On se retrouve donc la semaine prochaine à 13h sur les ondes 90.8.